Olivier Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Nous nous rencontrons à Schœlcher. Nous sommes dans un restaurant en ce moment, un très beau restaurant d'ailleurs, qui s'appelle Ambafaitola. Et c'est vous qui avez souhaité qu'on se rencontre ici. On avait rendez-vous pour parler de vous, de votre livre, et vous avez choisi ce lieu à Schœlcher.
Oui, c'est un lieu que je connais depuis très très longtemps, parce que je suis un Schœlcherois d'adoption, mais d'adoption je dirais précoce, parce que je suis arrivé à Schœlcher, j'avais 3 ans, et donc c'est un lieu que j'apprécie beaucoup, qui est tenu par Monsieur Duranty, et chaque fois qu'on peut profiter de bonnes choses, parce que nous avons bien mangé, et puis surtout donner un pal à un compatriote, ben, il faut le faire.
Vous avez choisi quoi sur la carte vous aujourd'hui?
Alors j'ai choisi riz lentille avec brochette de dorade et puis j'ai doublé ça d'une soupe de poisson, qui est une spécialité de la maison.
Vous êtes très poisson donc?
Oui, je suis très poisson.
Comme un poisson dans l'eau donc?
Comme un poisson dans l'eau, à Schœlcher, en Martinique, dans le monde, oui.
Alors écoutez Olivier, je suis très content de vous rencontrer pour plusieurs raisons. D'abord parce que bon, vous êtes une personne sympathique, nous nous connaissons depuis très longtemps. On vous voit, vous êtes très sincèrement, je crois, parmi l'élite de ce pays, l'élite intellectuelle de ce pays, l'élite agissante de ce pays. Et vous faites des choses, vous écrivez des livres, vous êtes partenaire de plusieurs opérations, vous entendez à Schœlcher et compagnie. Et ça nécessitait, selon moi, comme j'essaie de le faire chaque fois que je rencontre des gens intéressants, de savoir en fait quelles sont vos motivations, quelle est votre vision, quel est votre objectif par rapport à tout ce que vous faites. Et nous allons donc aujourd'hui essayer de faire connaissance avec vous pour essayer de bien comprendre qui vous êtes et d'où vous venez et où vous allez. Alors je vous propose, avant que nous fassions connaissance, que nous parlions tout de suite de votre actualité, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Vous avez sorti un ouvrage, c'est le dernier né, on va dire, de la collection, qui s'appelle « Le memento des élections de 2007 à 2017, 10 ans d'élections à la Martinique ». Et vous y parlez du résultat, des dépenses électorales, des candidats, enfin beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage et nous dire qu'est-ce qui vous a amené à le faire?
Oui, c'est un ouvrage donc, qui compile donc, des informations électorales. Alors bien sûr des résultats, mais il n'y a pas que des résultats d'élections, parce que bon, il faut quand même noter qu'entre 2007 et 2017, on a connu 18 rendez-vous électoraux, hein, entre les cantonales, les régionales, les sénatoriales, les municipales, les européennes aussi. Donc je pense que j'ai voulu profiter de cette année sans élection, donc 2018, pour faire un petit peu, regarder un petit peu dans le rétroviseur, faire le point sur ces 18 rendez-vous électoraux, et notamment en tirer une des conclusions que moi j'en tire, c'est que les taux de participation s'effondrent, quel que soit le type d'élection. Hein. Tout type d'élection confondu, on voit que il y a de moins en moins de Martiniquais qui se rendent aux urnes.
Et là, vous avez observé la même chose sur les municipales,
oui,
Olivier?
Oui, sur les municipales, sur les cantonales, sur les législatives, sur les régionales, la tendance est clairement à la baisse. Et alors, c'est vrai que
la moyenne sur la Martinique aux élections, à peu près, c'est quoi?
Alors,
en moyenne,
ça varie selon les élections, mais par exemple, un chiffre quand même marquant, c'est 74% d'abstention au premier tour des législatives en 2017. Ça, on n'avait jamais atteint ce taux-là, et c'est un taux qui n'est atteint nulle part ailleurs en France pour ce type d'élection-là. Et ce qui confirme la défiance qui se creuse entre les électeurs et les élus. Donc, un livre qui est composé donc, de résultats électoraux, mais qui aussi intègre une information qui n'avait jamais été publiée jusqu'à présent, c'est-à-dire les dépenses électorales des candidats, donc pour les élections cantonales, municipales, législatives et régionales. Et je pense que c'est une donnée importante qu'on puisse parler donc, d'argent avec précision sur ce que coûte une campagne et ce que dépensent les candidats. Et puis, on va aussi parler d'argent en parlant donc d'indemnité des élus. Il y a beaucoup de fantasmes hein, autour donc des indemnités, des mandats des élus. Donc, je pense que c'est important qu'on parle avec précision aussi. Et puis aussi qu'on connaisse un peu mieux nos élus. Qu'on connaisse un peu mieux nos élus, notamment avec la liste de tous les élus de Martinique, tous les conseillers municipaux, tous les conseillers territoriaux, tous les sénateurs, députés, et tous les conseillers intercommunaux aussi, parce que souvent on ne connaît pas très très bien la composition des conseils intercommunautaires. Et puis pour finir aussi, des éléments très précis sur le financement public des partis politiques, puisque les partis politiques ont une mission de service public. Donc selon l'article 4 de la Constitution française actuelle, ils sont tenus de participer à l'expression du suffrage des citoyens, des électeurs. Et ils perçoivent pour ça donc de l'argent public. Et on pourra voir que par exemple sur entre 2013 et 2017, le PPM a perçu plus de 600 000 euros, le MIM a perçu plus de 400 000 euros, et puis tous les partis qui ont participé aux élections législatives ont aussi perçu des sommes destinées à animer la vie démocratique martiniquaise. Donc voilà, donc des données un peu atypiques pour enrichir et contribuer au débat démocratique.
Bon, alors, cet ouvrage, ce Memento, je l'ai feuilleté avec vous.
Oui.
Je peux témoigner effectivement auprès de nos auditeurs que c'est un ouvrage intéressant à voir pour plusieurs raisons. Effectivement, parce qu'il permet d'avoir une idée lorsqu'on s'intéresse un peu à la question politique, il permet d'avoir toutes les données en place. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il permet de faire des regroupements. Et en particulier, de savoir, par exemple, sur les dépenses de campagne dont vous parlez, qui c'est qui dépense le plus, mais aussi comment parfois il peut arriver que quelqu'un qui, je prends le cas des législatives, par exemple, ou le maire de Schœlcher, puisque nous sommes à Schœlcher, par exemple, a pu faire ce qu'on appelle un beaucoup. Puisque pratiquement sa campagne lui aura permis de toucher presque 40 000 euros, me semble-t-il, alors qu'il n'était que le seul candidat. La preuve, effectivement, que avec les élections, il y a aussi des moyens de financer les partis, quoi.
Oui, tout à fait. Alors là, dans le cas de Monsieur donc Clémenté, qui était candidat en 2012 aux législatives dans la circonscription du Nord, et donc grâce à sa candidature, qui avait été déclarée sous le parti Vivre à Schœlcher, le parti Vivre à Schœlcher a pu percevoir 40 000 euros entre 2013 et 2017. Donc c'est un versement annuel qui dépend du score réalisé au premier tour des législatives. Et qui dépend aussi, pour les partis qui en ont, du nombre de parlementaires. Donc, alors je ne sais pas si c'est un bon coup, mais c'est sûr que ce sont des ressources. Ce sont des ressources, mais il avait aussi, je suppose, sûrement contracté un prêt aussi personnel pour financer sa campagne. Donc on dira qu'il a, je pense, à minima, financé sa campagne. Et puis, permis à son mouvement d'avoir quelques moyens pour fonctionner au quotidien.
C'est ça. Alors, vous avez aussi, toujours dans cet ouvrage, consacré une partie au régime indemnitaire des élus, c'est-à-dire de savoir exactement ce qu'un élu en Martinique gagne, puisque souvent on associe les élus à une question de gain d'argent en se disant. Ils touchent et c'est pour ça qu'ils font ce genre d'opération-là. Vous avez, par exemple, l'indemnité brute maximale mensuelle que peut détenir un certain nombre d'élus et vous avez fait ça pour toutes les communes. Vous êtes parti de Basse-Pointe jusqu'à Schœlcher et plus. Et à travers donc toutes ces communes, on se rend compte que, par exemple, un maire en moyenne en Martinique peut toucher jusqu'à 2 500 euros, ce qui serait à peu près la possibilité de Saint-Joseph. Est-ce que ça veut dire que les montants qui sont là sont exactement les montants que touchent ces élus?
Non, ce sont des indemnités brutes maximales, mensuelles. Donc ce sont des montants maximaux. Et donc, ce sont des maximums, et donc, qui sont fixés par la loi. Qui sont fixés par la loi, et il se peut que donc, certaines communes aient une politique de ne pas appliquer le maximum, et puissent aussi répartir l'ensemble des indemnités sur l'ensemble du conseil municipal, ou bien concentrer les indemnités sur les adjoints et le maire. On se rappelle aussi qu'à la mairie du Prêcheur, lors des premières années de mandature, le conseil municipal avait renoncé à ces indemnités, justement pour accélérer le redressement des finances de la mairie du Prêcheur. Donc, tout ça, ça reste à la discrétion des maires. Et cet ouvrage, qui est un ouvrage aussi qui se veut être un outil de transparence de la vie politique martiniquaise. Donc transparence des résultats, transparence des financements des partis politiques, transparence des indemnités maximales versées aux élus. C'est aussi une invitation qui est faite aux élus pour communiquer la politique qu'ils ont choisie de mettre en œuvre en matière donc d'indemnité. Donc comment ça se passe? Et je pense qu'ils ont tout à gagner pour un peu démystifier ce sujet-là qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes.
Oui. Alors, vous avez aussi des chiffres qui sont intéressants sur lesquels on peut se pencher, surtout dans cette période où il y a de nombreuses discussions. Vous avez les résultats des élections présidentielles de 2017 en Martinique.
Oui, oui. Donc les résultats de 2017, même de 2007, de 2012 et de 2017, notamment avec le score quand même assez impressionnant de Marine Le Pen qui a été fait ici en Martinique. Et puis, donc oui, donc voilà. Donc ça fait partie, donc ces trois résultats-là font partie donc, des 18 rendez-vous électoraux qu'on a connus entre 2007 et 2017.
On note tout de même que l'abstention, c'est 49%. C'est-à-dire que c'est quand même un peu moins que lorsqu'il s'agit des élections locales.
C'est un peu moins, mais c'est très élevé pour une présidentielle. Et si on regarde au niveau donc, de 2012, donc c'était 47% en 2012. Et puis en 2007, bon, c'est une élection où les gens avaient beaucoup participé, l'abstention était plus faible, était à 41%. Donc là aussi, on voit bien que aussi pour les présidentielles, l'abstention gagne du terrain. Mais ce n'est pas une tendance qui est propre à la Martinique, hein. C'est une tendance aussi. Donc en France aussi, l'abstention a été beaucoup plus importante en 2017 qu'en 2012, mais elle est accentuée ici.
Oui. Alors, Olivier, ce type d'ouvrage, il intéresse qui en particulier? Parce que je suppose que si vous le réalisez, vous le réalisez avec une cible, c'est pas un ouvrage grand public, c'est pas un roman, quoi.
Non, c'est pas une fiction. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, papa, et après 300 pages, il n'y a pas d'image, comment tu vas vendre ça ?» Alors, je leur dis que bon, c'est un ouvrage donc, qui est ciblé et qui s'intéresse, alors bon, je dirais normalement à tous les citoyens qui s'intéressent à la vie politique, mais plus spécialement aux militants de partis politiques, aux responsables de partis politiques, aux élus, aux collaborateurs d'élus, aux journalistes, aux observateurs de la vie politique martiniquaise, et puis aux chercheurs universitaires et aux étudiants. Donc voici un peu la cible que moi j'ai imaginée. Hein. Après, entre ce qu'on imagine et puis ce qui se passe dans la réalité, il y a souvent des écarts. Mais je pense que pour les cibles que j'ai citées là, c'est un ouvrage qui revêt un intérêt certain.
Bon. Écoutez, ça c'est pour la présentation de votre memento des élections. On y reviendra parce que je vous ai fait une proposition d'ailleurs à l'issue de la présentation de cet ouvrage, c'est qu'on va organiser un rendez-vous qui sera pratiquement un rendez-vous hebdomadaire, sur lesquels nous allons rentrer dans le détail de ces chiffres en sachant que pour nos auditeurs, nous allons compiler certaines parties. Mais c'est aussi l'occasion, Olivier, comme je le disais en début de notre entretien, où je rappelle que nous sommes aujourd'hui à Chelcher, dans un restaurant où on entend un peu la musique, hein, ça a été rajouté, en plus c'est pas plus mal. Vous intéressez à la musique?
Oui, je m'intéresse à la musique, j'ai même un peu pratiqué la guitare. Et puis, oui, je m'intéresse à la musique. Alors, la musique que j'aime, c'est le reggae. J'ai grandi avec le reggae. Et là, je réécoute ces temps-ci Sixième Continent, pour vous dire un petit peu ce que j'aime.
Quel morceau vous écoutez? Il est à vendre?
Alors, il y a Il à vendre, mais il y a aussi Arrête-toi là, il y a aussi...
Reggae Dom Tom?
Oui, Reggae Dom Tom, Monsieur Caraïbo, une certaine idée de la liberté, donc du prix de la liberté. I Wanna Live With You, une chanson, c'est un hymne à la coopération caribéenne. Donc le reggae, donc le zouk, j'ai écouté aussi, j'aime beaucoup la contrebasse. Et le violoncelle pour la musique classique. Et puis j'aime un peu, je dirais, le jazz, quoi. J'avais des voisins qui étaient des fanatiques de jazz. C'était des copains qui étaient les fils de Bib Monville, qui d'ailleurs jouent au sax sur Reggae Dom Tom. Et ils m'ont un peu initié donc à Thelonious Monk, à Coltrane, voilà. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste du jazz, hein, voilà. Et puis, bien sûr, et puis j'apprécie particulièrement aussi tout ce qui est musique traditionnelle martiniquaise, donc Belay, Damier. Et puis aussi, j'aime beaucoup aussi le Rouka guadeloupéen, parce que j'ai aussi des racines en Guadeloupe.
Bon, je note que vous n'aimez pas le zouk, puisque vous n'en parlez pas.
Ah non, j'ai cité le zouk. Ah, non, ah oui, non, le zouk, j'adore le zouk. Non. Je suis, bon, le zouk des années 80 et 90 a marqué ma jeunesse, oui.
Alors, Olivier, nous allons essayer de faire connaissance avec vous. On va surtout s'arrêter à votre expérience professionnelle qui fait qu'aujourd'hui vous sortez cet ouvrage, parce que vous n'êtes pas indifférent à ce qui se passe dans l'économie de la Martinique. Vous avez déjà mené plusieurs tentatives et ma question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes un politique ou pas? Alors je vous dis pourquoi je vous pose la question. Nous avons appris que sur Chelcher, vous accompagnez Franck Saint-Rose-Rosemont, qui lui est dans la politique. Et on a su ensuite que vous avez planté, quand je dis planté au sens de faire naître, hein, c'est pas Nathalie Josse, hein, qui s'était présentée aux élections. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous êtes oui ou non dans la sphère politique?
Alors, moi, je me définis comme un ouvrier de l'intelligence collective, que ce soit dans l'organisation, quoi, dans l'entreprise, l'association, le syndicat ou le service public, ou dans la cité, donc dans la démocratie. Et donc, et l'ouvrier de l'intelligence collective que je suis estime que chacun de nous, donc chaque citoyen, devrait prendre la parole pour apporter sa contribution. Prendre sa part à l'épanouissement de notre société. Et donc, j'interviens dans le débat public. Donc, je prends position, je fais des propositions, j'apporte des contributions. Et puis aussi, lorsque on me sollicite, parce que Martinique Citoyenne, c'est quand même l'initiative de Nathalie Josse, hein. C'est elle qui a souhaité qu'on puisse présenter une liste en 2015. Et après plusieurs rebondissements, parce qu'on avait des incertitudes sur la date de l'élection, je lui ai dit que j'étais prêt à l'accompagner. Et pour Franck Saint-Rose-Rosemont aussi, c'est une initiative qu'il a prise à Chelcher, et à qui je donne un coup de main. Je donne un coup de main à Franck Saint-Rose-Rosemont, parce que j'estime que chaque fois que les citoyens veulent s'organiser pour peser sur des décisions qui concernent leur quotidien, il faut les encourager. Et donc, avec mes maigres moyens, ma petite disponibilité, mes petites compétences, j'apporte ma pierre à l'édifice.
D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre action militante à vous que d'aider les autres à émerger?
Oui, c'est ma contribution. C'est ma contribution d'accompagner des gens qui veulent prendre des initiatives, qui sont des initiatives qui sont captivantes, mais qui sont aussi des initiatives qui sont lourdes, hein, en termes de disponibilité, en termes de financement aussi. Moi, ma mission de vie, très clairement, c'est d'aider les habitants de la Martinique à pouvoir, je dirais, optimiser leur capital de création et d'action.
D'accord. Alors, je vais revenir sur la question, parce que pour moi, vous n'y avez pas répondu. Hein. Mais on va revenir. Je vais quand même essayer d'expliquer pour comprendre. Vous avez développé un concept qui est le concept citoyen, disons. C'est-à-dire, on doit apprendre à travailler ensemble. Et vous en faites une activité professionnelle aussi, puisque vous permettez à des organisations, des associations, de trouver les passerelles pour pouvoir dépasser les problèmes d'ego et comprendre la dynamique et la synergie. Alors, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, et je vous reposerai la question à nouveau, parce que pour moi, je n'ai pas eu de réponse, hein, Olivier. Je ne sais pas si vous êtes dans la sphère politique ou pas. Alors, expliquez-nous ce que vous enseignez aux uns et aux autres, et je vous reposerai la question tout à l'heure.
Alors, moi, j'accompagne les organisations, donc les collectifs, ça peut être des associations, des entreprises ou des collectivités locales, qui veulent changer de modèle d'organisation, donc passer de façon très schématique, passer du modèle pyramidal, donc hiérarchique, à un modèle collaboratif. Donc on passe d'un modèle où l'information et le pouvoir sont concentrés dans les mains d'un petit groupe de personnes au sommet de la pyramide, à une organisation où l'information et le pouvoir sont distribués, où chacun peut apporter, selon ses compétences, son expertise, ses expériences, peut apporter une contribution au développement du collectif. Donc je le fais à la fois dans l'organisation, mais je le fais aussi dans la cité. D'accord. Et donc, je vulgarise des outils qui existent déjà. Hein. C'est qu'aujourd'hui, à ce jour, je n'ai rien inventé. Sinon, je porte ces outils-là, la connaissance donc, de mes clients et aussi des citoyens. Et pour répondre à la question, si je suis dans la sphère politique, je ne suis pas dans la sphère politique électoraliste, très clairement. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas mon positionnement, mais j'interviens dans le débat politique. J'interviens dans le débat politique et j'invite tous les citoyens à prendre la parole. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, si vous voulez. C'est une tendance qui est une tendance mondiale, hein, si vous voulez. Il y a des mouvements citoyens, donc à Hong Kong, avec la révolution des parapluies, par exemple. Il y a des mouvements citoyens en Afrique, comme le Yanama au Sénégal ou le ballet au Burkina Faso, par exemple. Il y a des mouvements citoyens donc en Europe qui ont débouché sur des partis politiques comme Podemos, par exemple, qui vient des indignés. Donc c'est globalement un mouvement, je dirais, transversal à toute l'humanité et qui remet en cause le modèle d'autorité pyramidale, justement, dont on parlait à l'instant. Donc c'est une remise en cause, et la Martinique n'est pas à l'écart de cette remise en cause-là. Et on doit aujourd'hui, en Martinique, donc inventer de nouvelles manières de collaborer, de nouvelles manières de débattre, de nouvelles manières de décider ensemble. Et les difficultés que connaissent des partis politiques comme le PPM, où donc on a vu là, le départ de gens comme Chaumet, comme Lordino, comme Robin. Ce qui se passe au MIM aussi, pour moi, témoigne de cette remise en cause de ce mode de management un peu pyramidal. On peut parler aussi, pour parler de choses de chez nous, de notre histoire, de management d'habitation, très clairement, où au fait compte, il y a un commandeur qui est avec un fouet et puis une main qui caresse dans l'autre, donc la carotte et le bâton. Il y a une remise en cause dans les entreprises aussi, avec l'arrivée sur le marché en Martinique de jeunes qui n'ont pas la même relation à l'autorité que leurs parents, qui étaient plutôt dociles et qui acceptaient un peu ce paternalisme-là, cet autoritarisme-là. Donc tout ça montre que la société martiniquaise est traversée par ces changements-là. Ça demande une nouvelle approche de l'action politique, une nouvelle approche du débat politique.
Bon, très bien. Alors, j'ai bien compris donc, que vous êtes au service de la politique, mais pas dans la politique. C'est-à-dire que, pour résumer un peu les choses, vous apprenez aux gens à pêcher, mais vous ne récupérez jamais de poisson pour vous. Donc, je veux bien croire qu'une nouvelle espèce serait née, quoi. Enfin, c'est je me sacrifie pour le. C'est quoi, c'est Mère Teresa?
Ah non, surtout pas de sacrifice. Moi, je ne cultive pas le sacrifice. Je dis que tout ce qu'on fait, on doit le faire avec joie, avec plaisir. Et c'est ce qui génère un engagement profond, authentique et sincère. Donc non, il ne s'agit pas de sacrifice. Il s'agit juste de trouver sa place. De trouver sa place par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de vivre. Et malheureusement, souvent, on résume la politique aux élections. Mais la politique, c'est quoi? L'élection, c'est un moment de la vie politique. Et d'autant plus maintenant où y a la majorité des citoyens, des électeurs, ne se déplacent pas pour aller voter. Et donc, il faut qu'on invente une démocratie continue. On est dans une logique de démocratie intermittente, dont le rythme est donné par les élections. Et il faut qu'on invente une démocratie continue où il y a un dialogue permanent entre les élus et les citoyens, et qui aille bien au-delà des conseils participatifs de quartier qui existent déjà. Mais on doit aller beaucoup plus loin que ce qui existe déjà aujourd'hui dans des communes comme Chelcher, comme Fort-de-France, comme dans d'autres, donc au Robert ou à Sainte-Marie. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans le partage des responsabilités et dans le changement des modalités donc d'exercice du pouvoir par les élus. Plus de collaboration avec les citoyens, plus de collaboration aussi avec les administratifs, plus de collaboration avec les experts, avec la société civile organisée, par exemple le CESEM, le Conseil consultatif de la collectivité territoriale de Martinique, devrait être beaucoup plus sollicité, devrait être beaucoup plus actif, devrait être beaucoup plus associé qu'il ne l'est aujourd'hui à l'édification des politiques publiques en Martinique, par exemple.
D'accord. Alors, Olivier, tout ça, effectivement, même si j'ai posé cette série de questions pour savoir vraiment quel est l'intérêt que vous y trouvez, je veux dire que je peux aussi comprendre que de manière déterminée, il y a un certain nombre de monde, d'un certain nombre de personnes qui espèrent un changement. Hein. Nous-mêmes, sur notre support, sur nos journaux, sur le portail ici Martinique, mais aussi sur le journal, le webzine Makakla, notre slogan, il est très clair, c'est un propos disruptif pour une démarche alternative, quoi. Je pense que vous-même, vous êtes dans cette dynamique-là qui, elle-même, consiste à dire qu'on ne peut pas réfléchir de la même manière et on ne peut pas non plus agir de la même manière comme s'il ne s'était rien passé, comme si on n'était pas conscient des différents résultats d'aujourd'hui. Alors, moi, ce que je vais essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui vous a, vous, emmené vers cette démarche? Parce que ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de mieux vous connaître. Dans la vie professionnelle, vous avez été assez innovant aussi, avec notamment l'équipe de G2I, avec à sa tête...
José-Jacques Gustave.
José-Jacques Gustave. Qui, là aussi, avait une vision complètement différente sur ce qui pouvait arriver, le fait que le monde était en train de se globaliser, que les choses, que les pays se rapprochaient, que les hommes avaient besoin de discuter entre eux. Et vous, pendant pratiquement une quinzaine d'années, vous avez été à la tête de cette société qui était spécialisée dans la mise à disposition de canaux de communication.
Oui, en fait, donc j'ai animé et j'étais responsable donc du développement du département Outre-mer, donc de G2J, donc d'abord Antilles-Guyane et puis après sur l'ensemble de l'Outre-mer. Donc j'ai piloté la business unit de l'Outre-mer dans cette société-là. Mais avant cette expérience professionnelle-là, j'ai eu des expériences associatives quand j'étais étudiant dans l'Hexagone. Parce que j'ai toujours aimé le travail collaboratif.
Vous avez fait quoi comme études?
J'ai fait des études de sciences économiques et puis une business school en France. Et j'ai toujours pensé qu'on avait quelque chose, on pouvait à plusieurs construire quelque chose de plus grand que tout seul. Donc, dès ma première année d'études à Paris, j'ai intégré une association d'étudiants antillais et guyanais, dont l'objectif était justement de favoriser les contacts entre les étudiants et les entreprises. L'association s'appelait à l'époque Martinique, puis après Caraïbes étudiants entreprises. Et puis j'ai aussi milité dans un parti politique, toujours dans cette logique d'apporter une contribution et de construire quelque chose de collectif.
Ça vous embête de nous dire lequel ?
Ah non, pas du tout, non.
Et vous ne le dites pas ?
Ah, c'est le Parti Progressiste Martiniquais de 2003 à 2011.
Et là aussi, vous êtes parti ?
Oui, je suis parti. Disruptif
aussi ?
Alors, je ne sais pas si c'est de la disruption, mais c'est que ce que moi j'ai perçu, c'est que pour discuter, rentrer en contact directement avec la population martiniquaise, peut-être qu'il fallait se passer du filtre d'un parti politique. Et c'est pour ça que j'ai aussi été candidat aux élections législatives en 2012 dans la circonscription du Nord, avec la logique de construire un projet partagé avec les citoyens du Nord. Et le slogan de la campagne, c'était le Nord citoyen. Et pour revenir à G2J, en fait, offrait des moyens aux professionnels de collaborer à distance. C'est comment on peut travailler tout en étant à 8000, 11000 km de distance quand on a des bureaux à Cayenne, à Paris, à Saint-Denis-de-la-Réunion et à Fort-de-France. L'aspect collaboratif, c'est quelque chose qui a, je dirais, un peu manqué mes activités professionnelles, mais aussi associatives et citoyennes.
Alors, il faut préciser que le business que vous faisiez, c'était surtout de mettre des liaisons, des formes de communication, mais de manière sécurisée. C'est-à-dire que c'est pas comme aujourd'hui avec Facebook et compagnie où on peut avoir des failles, parce que vous travaillez à l'époque avec des banques, avec des organisations de ce type, pour lancer des fusées, des choses où il y a une nécessité de confidentialité, de cryptage peut-être.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. On travaille avec des établissements bancaires. À l'époque, on travaillait aussi avec des ministères comme le ministère de la Justice. Et donc, ce sont des clients qui ont des exigences très très élevées en matière de fiabilité du service, donc de disponibilité du service. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, c'est comme le téléphone, il faut que la communication soit établie tout de suite et qu'elle soit correcte, qu'on voit et qu'on entende les gens correctement. Et puis surtout, il faut que les transmissions soient cryptées, soient sécurisées. Qu'elle ne puisse pas être interceptée pour qu'elle soit détournée, divulguée. C'était des solutions professionnelles, justement, qu'on proposait à des professionnels de la finance, de la justice, donc des assurances, mais aussi de l'aérospatiale, en effet.
Cette boîte, vous l'avez vendue, puisque vous étiez vous-même actionnaire avec vos différents partenaires. Vous vivez cette vente aujourd'hui comment, avec le recul, lorsque l'on sait que c'est vrai que les technologies changent, que les choses avancent, mais enfin je veux dire, c'est quand même assez rare en Martinique qu'on soit dans cette démarche qui consiste à un moment à réaliser son capital. Vous avez vécu vous cette expérience?
L'aventure G2J, pour moi, c'est une très très belle aventure. Hein. Donc, je suis très très fier d'avoir participé, d'avoir contribué, d'avoir amené ma pierre à l'édifice. Et c'est vrai que nous avions vendu, José-Jacques Gustave et les autres actionnaires, tout en restant salarié de cette structure-là. Et puis, comme souvent, on a compris ça un peu après, comme souvent, lors de rachats comme ça, ce qu'on avait prévu comme stratégie de développement avec l'acheteur en fait ne s'est pas concrétisé dans les délais, dans les formes qu'on avait souhaité, et donc on est sorti de cette société là et aujourd'hui je dirais a posteriori Ça manque une étape dans ma carrière, dans ma vie professionnelle. Et le fait de ne plus travailler dans ce secteur-là, c'est aussi pour moi, ça a été pour moi l'occasion d'aborder une autre partie de ce que j'aime faire, donc l'organisation, le management participatif et puis aussi la démocratie participative.
Alors, nous y sommes de quoi vous vivez maintenant aujourd'hui?
Alors,
Autour, quand je dis ça, c'est autour de quoi se construit votre liberté en fait? Parce que c'est vrai que plus on travaille avec des collectivités, des ensembles, moins on a la possibilité de parler. Alors, comment vous avez construit votre liberté?
aujourd'hui, donc j'ai une activité donc d'édition, hein, qui j'ai édité à ce jour 4 ouvrages, donc sorti de la
Vous
pierre.
vendez, donc vous vendez vos livres?
Oui, tout à fait. Exactement.
4 livres, alors donnez-nous les noms.
Alors, c'est sortir de la pyramide hiérarchique. Et donc, ça traite de quoi? Ça traite de comment fournir donc des outils pratiques.
Deux. Le deuxième.
Le deuxième, c'est contribution citoyenne. Donc, c'est un recueil de tribunes que j'ai publié.
Le troisième.
Le troisième, c'est Grandir grand l'esprit, qui est sorti là au mois de mai 2018. Et puis le quatrième, c'est le mémento des élections 2007-2017 pour la Martinique. Et en gestation, il y a le mémento des élections 2007-2017 pour la Guadeloupe.
D'accord. Alors ça, c'est donc votre activité édition. Et puis, vous avez quoi encore comme activité?
Alors j'ai une activité de conseil, justement. Donc j'accompagne les collectifs, donc les associations, les entreprises, qui veulent passer donc du modèle pyramidal au modèle collaboratif. Donc avec notamment un outil qui s'appelle l'holacratie, que j'ai décrit dans le premier ouvrage qui s'appelle Sortir de la pyramide hiérarchique. Et c'est comment responsabiliser les acteurs, comment combiner à la fois liberté d'action des acteurs, intelligence collective et performance de l'entreprise.
Très bien. Alors, vous arrivez à en vivre aujourd'hui, Olivier, de ces différentes activités?
Aujourd'hui, j'arrive à en vivre et j'espère en vivre mieux.
Très bien. Alors écoutez, bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Si on devait résumer, on va dire que bon, vous participez avec des groupes politiques, mais vous n'êtes pas en politique. Vous continuez à développer le système collaboratif pour tous ceux qui veulent sortir du système pyramidal. Troisièmement, vous avez vos différentes motivations, c'est-à-dire les valeurs que vous défendez dans votre vie, hein, de tous les jours. Et puis, on va terminer, vous êtes martiniquais aussi.
Oui, je suis martiniquais, donc je suis
Vous n'êtes
né.
pas surpris de ma question?
Non, 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 je ne suis pas surpris. Et pourquoi devrais-je l'être? Oui, donc je suis martiniquais, je suis martiniquais, j'ai grandi, je suis né en Martinique, j'ai grandi en Martinique, j'ai des parents martiniquais, mais j'ai aussi une mère qui est guadeloupéenne, donc j'ai des racines. Et puis j'ai des oncles guadeloupéens qui ont fait les recherches, qui ont trouvé mon arrière-grand-mère est sainte-lucienne, donc je suis martiniquais, je suis caribéen, quoi, voilà, oui.
Et ça veut dire quoi être martiniquais en 2018? Parce que vous observez un peu ce qui se passe, enfin, je veux dire. Supposez bien que je ne vous ai pas lancé ça comme ça. Tout ce qui se passe en ce moment, la question de l'égalité, est-ce qu'il faut plus de différenciation? C'est le débat du moment.
Ah, moi je pense que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, enfin, ce dont moi j'ai besoin justement pour me sentir encore plus martiniquais, j'ai besoin que les hommes politiques, que les acteurs politiques, les partis politiques, en fait, compte. Puisse organiser la mise en œuvre d'une véritable vision partagée de la Martinique. C'est-à-dire comment on peut se projeter collectivement et positivement dans le monde et comment on peut se projeter positivement, collectivement dans l'avenir. Parce que je pense que la question essentielle qu'on doit résoudre collectivement, vraiment la première des questions, la plus importante pour moi, c'est qu'apportons-nous au monde? Comment manifestons-nous notre présence au monde aujourd'hui, en tant que Martiniquais justement? Et je pense que si on commence à répondre à cette question-là, on va à un moment ou un autre tomber sur la question des valeurs, savoir quelles valeurs on veut mettre en avant, sur quelles valeurs on veut s'appuyer justement pour affirmer notre présence positive au monde, hein, notre contribution au monde. Et puis surtout, quelles priorités, en fait, compte, on va choisir. Et à partir de ces priorités-là, on va pouvoir décliner un plan d'action. Et je pense qu'on a vraiment besoin de cet investissement des politiques dans l'élaboration de cette vision partagée, mais vraiment partagée, hein, pas la vision d'un ou de deux hommes, quelle que soit leur qualité, leur intelligence, leurs compétences, mais quelque chose qui soit vraiment partagé par la population, donc quelque chose qui demande du temps, qui demande des efforts, des choses, quelque chose de compliqué, de complexe, mais quelque chose qui va donner du sens au vivre ensemble en Martinique en 2018.
Très bien, alors ce sera la dernière question, même si je dois rappeler que j'étais très heureux de vous rencontrer, Olivier, sur cette présentation. J'espère qu'elle aura plu aussi à nos auditeurs, parce que bon, il y a des Martiniquais comme ça qu'il faut connaître. Vous nous avez parlé de valeurs qui étaient les vôtres. On va terminer avec cette question. Quelles sont ces valeurs?
Alors, une valeur de solidarité, je pense que c'est une valeur de responsabilité, c'est-à-dire que bon, la solidarité, je pense que ça peut paraître évident, mais l'idée c'est qu'on est tous interdépendants en Martinique. Et quelle que soit notre origine sociale, on est sur le même territoire, on partage une histoire commune, on partage une culture commune, et on est tous interdépendants, et qu'il faut qu'on intègre ça, malgré nos différences de classe, nos intérêts contradictoires de classe. On doit pouvoir s'entraider. La
seconde, c'était la responsabilité, vous disiez.
La responsabilité à la fois individuelle mais aussi collective. Donc la responsabilité individuelle, c'est être capable donc de conscientiser ses choix et d'en assumer les conséquences, que ce soit au niveau individuel et au niveau collectif. Et puis le courage. Le courage, pour moi, ça c'est une valeur qui est centrale, à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Parce qu'à titre individuel, c'est ce qui permet vraiment de s'individualiser. Non pas de devenir individualiste, hein, mais de devenir un individu et d'avoir le courage d'exprimer ses positions, ses pensées, ses opinions. Et puis au niveau collectif, je pense que c'est le courage permet de créer des communautés plus performantes et plus contributrice au monde. Voilà.
Très bien. Ben écoutez, merci Olivier. À très bientôt.
Merci, à bientôt.